créée par des perturbations qui sont biologiques. Donc il y a toute une réflexion à avoir avant, parce que ça dépend aussi de l'âge des enfants, ça dépend de leur niveau de maturité. Et c'est là où c'est à nous d'intervenir déjà en amont avec les parents et avec la personne qui est directement concernée par ce trouble, en leur disant, ben, si vous posez des questions, voilà ce qu'il faut répondre. Et puis si vous avez certaines difficultés, ben, éventuellement, on peut peut-être passer par le médecin généraliste qui pourra intervenir et qui pourra l'expliquer. Mais ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à s'inquiéter et à s'interroger sur que dire aux enfants. Mais c'est aussi fondamental que la préoccupation qu'on avait il y a 20 ans, que dire à la femme ou au conjoint. C'est-à-dire qu'il est évident aujourd'hui qu'il faut donner une information au conjoint. C'est devenu une évidence. C'est quelque chose que normalement, on doit faire. Parce que le conjoint ne peut pas comprendre cette maladie s'il n'a pas cet information. Ça ne se fait pas obligatoirement, mais c'est devenu une évidence. Hein. Ça fait partie de la prise en charge. Eh bien, pour les enfants, ça nécessite réflexion, c'est vrai. C'est plus compliqué parce qu'il y a une manière de faire qui doit être plus subtile, je dirais. Mais c'est fondamental. Alors, la manière de le faire, c'est d'essayer d'avoir des schémas quand même rassurants, de se référer à cette notion de maladie, de faire des comparaisons, même si elles paraissent stupides, avec le diabète ou avec d'autres maladies qui sont assez connues, et de dire que c'est traité par des médicaments et que c'est accessible à des soins, que ça n'a strictement rien à voir avec la personnalité de ta maman. Si ta maman est couchée, c'est que ça fait partie de sa maladie, mais que ce n'est pas un manque de volonté. Bon, tous ces éléments, il faut les... Et que ce n'est pas à cause de l'enfant, et là en particulier dans les histoires de suicide aussi, ce n'est pas à cause de l'enfant, parce que la culpabilité elle est toujours là, et que bien sûr l'enfant va s'interroger sur si ma maman est comme ça, c'est de ma faute, et bien sûr que l'enfant a très tendance à se culpabiliser. Mais ça, bon, on va y arriver, c'est des étapes à franchir, on est en train de le mettre en place, mais la question que vous posez elle est fondamentale, parce que ça peut laisser des séquelles, parce que ça peut laisser des traces, parce que un enfant qui aura l'impression d'avoir été rejeté durant son enfance parce que sa mère était dépressive, alors que sa mère est dépressive et que du fait de sa dépression, elle ne pouvait pas être présente en permanence, si on lui donne une explication, si on lui fournit une explication, ça pourra avoir un effet positif.
Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure de la mise en place de la personnalité, du tempérament pendant l'enfance. Si je reprends vos propos, à un moment donné, vous avez associé des neuromédiateurs avec des traits du caractère comme la sociabilité, l'inhibition et la découverte du monde. Vous êtes arrêté à un moment donné en associant la sérotonine à l'inhibition. Est-ce que ça ne vous ennuierait pas de reprendre en ce qui concerne la sociabilité et la découverte du monde? Quant aux neuromédiateurs, enfin, je crois que ce sont des neuromédiateurs, je ne suis pas médecin.
Oui. Non, alors c'est un sujet, moi je vais être franc avec vous, je l'ai découvert hier. Bon, on a un certain nombre de comportements ou de caractéristiques qui vont être plus ou moins sur la dépendance de certaines substances. Bon, actuellement, on a localisé principalement trois substances qui jouent un rôle, mais il y en a d'autres. En particulier, toutes les endomorphines. Vous savez que notre cerveau sécrète de la morphine. Et cette morphine, elle joue un rôle important dans le plaisir, elle joue un rôle important aussi dans les émotions, elle joue important, bien sûr, dans la douleur. Mais il y a trois substances sur lesquelles on a travaillé, enfin, les chercheurs ont travaillé, c'est la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Et la sérotonine est très souvent associée au sommeil, associée aux conduites alimentaires, associée à l'humeur proprement dite, et associée aux conduites. Conduites impulsives. À savoir que quand on donne du Prozac à quelqu'un, du Prozac ou un autre médicament sérotoninergique, ce médicament va permettre, bien sûr, d'agir sur l'humeur et va permettre de limiter à la fois des comportements impulsifs et compulsifs. À savoir que, par exemple, il va être anti-obsessionnel Et la sérotonine va permettre de réguler ce comportement impulsif en diminuant l'agressivité et en diminuant la violence. Et cette observation, elle a été faite en aveugle chez un certain nombre de personnes, chez l'animal aussi. Alors, au niveau de ces trois traits qui ont été je dirais, définis, c'est Clubinger qui a travaillé sur ce point et qui a proposé que le tempérament était fondé sur trois traits de caractère. Donc, la recherche de nouveauté, l'inhibition et la sociabilité. Et que chaque trait de caractère était modulé par un neuromédiateur. Pour l'inhibition, c'est la sérotonine. Donc là, on a un certain nombre de données qui permettent de l'affirmer. Pour la recherche de nouveauté, donc c'est la dopamine. Et pour la sociabilité, c'est la noradrénaline. Donc, des études qui ont montré que la modulation, la manipulation donc des neurotransmetteurs permettait de modifier ces traits. À savoir que si vous surchargez un nouveau-né en sérotonine, vous pourriez très bien modifier son degré d'inhibition, de même que la sociabilité pourra être facilitée par la noradrénaline. Alors, c'est très théorique, hein, c'est très très théorique, mais j'ai trouvé que ce schéma était assez séduisant, parce que ça montre bien que les gènes vont être liés à des substances et à certains traits, enfin ces traits de caractère vont être sous la dépendance de c'est pas quelque chose d'impalpable, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on présente une caractéristique, eh bien cette caractéristique clinique, ce trait, il est modulé, il est sous la dépendance de certaines substances. C'est pas comme ça quelque chose de d'impalpable. C'est lié, c'est moléculaire. Bon. Et là, on est dans quelque chose qui est très biologique, mais c'est basique. C'est je dirais, à l'état d'inné, et puis après, il va y avoir cette modulation, et puis tout le travail, tout l'acquis lié à l'environnement.
Bon, bonsoir. Au début de votre intervention, vous avez, ou alors j'ai mal compris, signalé que les troubles de personnalité n'étaient pas traités par les médicaments. Et ensuite, quand vous avez parlé des borderline, où là vous dites au contraire qu'on peut les traiter par les médicaments.
Alors disons que il est certain que lorsqu'on a un trouble de la personnalité, on n'est pas dans un processus de pathologie. Bon, alors donc. Le trouble de la personnalité, c'est un défaut de construction. C'est un défaut de construction et le travail, c'est un travail de reconstruction. Donc, soit dissolution-reconstruction, soit on fait de la consolidation. Bon. Dans certains cas, ces troubles de la personnalité vont être tellement invalidants qu'ils vont justifier une thérapeutique. Par exemple, en ce qui concerne le trouble de borderline, je ne connais pas de médicament qui va résoudre un trouble borderline. On va l'avoir. Bon. Mais le traitement, par exemple, je vais donner l'exemple du Zyprexa, à petite dose, qui pourra être utilisé pour réduire le niveau d'impulsivité, d'agressivité et de violence, et réguler l'humeur. Donc, c'est un traitement symptomatique. Hein. Alors, un paranoïaque, inutile de lui donner un médicament parce qu'il n'est pas malade. Donc, si vous avez en face de vous quelqu'un qui est paranoïaque, qui vient vous voir pour autre chose, parce qu'il ne viendra pas vous voir parce qu'il est paranoïaque. Moi, je n'ai jamais vu dans ma carrière de paranoïaques qui venaient me voir parce qu'ils étaient paranoïaques. Ils ne sont pas paranoïaques. Bon, c'est moi qui le suis. Mais, donc là, inutile de donner un médicament. Ça, bon. En ce qui concerne ces troubles, de même que, par exemple, pour les personnalités antisociales, les psychopathes, le psychopathe est violent, impulsif, irritable, agressif. En prison, il y a eu des études qui ont été faites et qui ont montré que le lithium permettait de régulariser leur comportement. Mais le psychopathe est tellement instable, impulsif, est tellement dans la provocation et dans l'opposition que dès qu'il va sortir, il va arrêter son traitement. Bon. Donc tout ça pour dire que le traitement va pouvoir permettre d'atténuer certains symptômes, mais il n'y a pas d'effet en profondeur.
Bonsoir docteur. Excusez-moi pour la question, là, ça n'a peut-être pas de rapport, mais si vous pouvez me donner une réponse en 5 secondes simplement. Hein? Bon. Gentiment. Voilà, j'ai un fils qui a 26 ans, c'est peut-être pas le moment d'en parler. De temps en temps, il me dit, j'ai un cancer dans la tête, je porte une charge de 200 kilos, vous m'avez tué, si je pars de la maison, je crève, si je reste dans la maison, je crève. Est-ce que ça peut relever d'un trouble du comportement?
Merci. Après, bon, c'est très très difficile de pouvoir faire une évaluation à partir d'une phrase. Hein. Mais quelqu'un qui dit j'ai un cancer dans la tête, on sent qu'il y a véritablement une souffrance. Hein. C'est une souffrance. Et donc ça fait référence soit à la dépression, hein, soit à la dépression, avec ces personnes qui sont déprimées et qui disent, vous savez, j'ai une chape de plomb, je n'arrive plus à penser, j'ai la tête complètement vide. Bon, ça c'est caractéristique de la dépression. Et puis quand il dit, mais à l'extérieur je crève et à l'intérieur je crève, ça peut être aussi s'intégrer dans quelque chose qui est purement dépressif, en rapport avec cet état de souffrance qui est extrême. Ça peut être aussi quelque chose qui est une agressivité qui est retournée à la fois contre lui et contre les autres, la manière de l'exprimer, parce que il vous met aussi un peu en cause, à savoir que je suis mal ici et je suis mal avec vous. Bon. Mais c'est très difficile de pouvoir faire une évaluation comme ça. Là, ce qu'on ressent, c'est la souffrance. Alors, quelle est la nature de cette souffrance? Est-ce qu'elle est dépressive? Est-ce que c'est un trouble de la personnalité? Je ne peux pas vous répondre. Mais des gens, par exemple, tout à l'heure, je parlais des personnalités borderline, sont des personnes qui souffrent terriblement. Et là, lorsque je vous ai fait cette description de ces 10 types de personnalités, il y a le point commun, c'est que ce sont des personnes qui souffrent du fait de la persistance de ces traits qui sont trop marquants, et qu'il est, non seulement, donc, ces traits sont à l'origine d'une souffrance interne, parce qu'ils sont quand même différents des autres, et qu'il les empêche d'avoir une réelle insertion, de pouvoir établir une relation normale avec quelqu'un, et obligatoirement, il y a un isolement.
Bonsoir, docteur. Vous avez parlé des différents... Bonsoir, docteur.
Oui.
Vous avez parlé des différents troubles de la personnalité et je voulais savoir ce qu'il en était des personnalités psychotiques et des personnalités névrotiques.
Merci. Alors, globalement, hein, c'est-à-dire que dans les personnalités que je vous ai citées, la personnalité schizoïde, la personnalité schizotypique, la personnalité narcissique, la personnalité paranoïaque sont des personnalités qui sont psychotiques. On est quand même dans le registre de la psychose, avec un défaut de structuration qui s'assimile à celui d'une structuration psychotique. Et les personnalités évitantes, histrioniques, dépendantes, vous savez, collantes, aldites et sécotines, c'est des personnalités névrotiques. Voilà. Donc je dirais que quand on parle de personnalités névrotiques ou psychotiques, on englobe tout. Hein. Mais la personnalité psychotique, eh bien, c'est quelqu'un qui vit... Dans un monde imaginaire. Vous savez, il y avait une histoire drôle qui était que le psychotique
construit des châteaux
en Espagne.
Non, c'est le contraire.
Non, psychotique, oui, construit.
Le château en Espagne.
Voilà, le névrotique donc paye.
Non, l'habite.
Non, les habite.
Et le psychiatre
encaisse
les loyers, voilà, c'est ça. Bien. Donc, c'est le névrosé est quand même dans la réalité, mais il souffre, hein, parce qu'il est toujours la culpabilité, ou la frustration, la satisfaction. Le psychotique est quand même décalé par rapport à la réalité, il vit dans un monde imaginaire. C'est très simpliste ce que je vous dis, mais... Le névrosé est dans la réalité, hein, mais trop, hein, et c'est douloureux. Mais je vous dis, ce qui caractérise la névrose, c'est que il y a cette notion de souffrance, mais en rapport avec la frustration, l'insatisfaction et la culpabilité. Alors à côté de ça, il faut savoir que la majorité des gens sont des personnes qui sont normalo-névrotiques. Parce que, alors c'est un nouveau concept, hein, je suis désolé, normalo-névrotique, à savoir que du fait de notre éducation, du fait de ce qu'on peut voir, du fait de simplement allumer les actualités à la télévision, eh bien, on est confronté à la souffrance et puis on se dit, mais bon, c'est pas facile. C'est pas facile parce que moi, je suis dans mon petit univers, je suis dans mon monde et puis il y a tous ceux qui souffrent. Donc, on est quand même dans quelque chose qui est culpabilisant. Mais c'est normal et c'est là où on dit normalo-névrotique parce que on a tous... Alors, je ne parle pas des psychotiques et puis des grands névrosés, mais on a tous des traits névrotiques liés à notre éducation, liés à des principes religieux, liés à une certaine morale, liés à plein de choses. Mais c'est normalo-névrotique. Voilà.
Oui, j'ai été frappé que souvent vous avez employé le mot « besoin ». Pour une personnalité, besoin de risque, besoin d'amour, besoin d'admiration, besoin d'être rassuré, etc. Finalement, on est toujours dans le domaine affectif avec les personnalités, et toujours par manque.
Absolument. Et ça, ce besoin, c'est étonnant ce que vous faites, parce que moi, je n'avais pas fait du tout attention à ce terme, à ce besoin. Mais c'est vrai que c'était déterminé par un manque. Et que ce besoin d'affect, il est lié à un manque d'affect. Que ce besoin de sensation est peut-être lié à un manque de sensation. Donc... C'est ça qui est fondamental et tout est déterminé durant l'enfance. Donc il y a des schémas comme ça qui ont été proposés par des comportementalistes, dont un comportementaliste qui s'appelle Jung. Alors il y a deux comportementalistes qui ont travaillé sur la question. Il y a Beck, B-E-C-K, et Jung. Alors Jung, c'est pas J-U-N-G, hein, c'est pas celui-ci. C'est un plus récent qui s'appelle Jung, comme Terence avec un Y. Terence Young, je ne sais pas s'il y a ceux qui ont vu James Bond là, mais Y-O-U-N-G, et qui ont travaillé et qui ont montré qu'il y avait des schémas et que ces situations de manque étaient à l'origine de ces troubles. Et c'est des théories qui sont assez intéressantes.
Quand on parle de manque, on pense à drogue. Est-ce que ce sont des sujets très sensibles aux drogues ?
Alors, là encore, vous soulevez quelque chose, je suis désolé de ne pas l'avoir abordé, parce que on est en plein dedans. C'est que les personnes qui sont toxicomanes, ou qui sont dépendants d'alcool, ou qui sont dépendants des aliments, eh bien, on retrouve très souvent cette problématique. Hein. On retrouve très souvent cette problématique, et quand on reprend un peu leur histoire, il y a un vide, et puis qu'on essaye de combler. Alors, on ne va pas généraliser, parce que tous les toxicomanes, tous ceux qui sont à la recherche de sensations à travers des toxiques, ne sont pas passés par là, mais c'est quand même un point commun, et vous avez des personnalités alcooliques, vous avez des alcooliques qui ont des personnalités dépendantes et qui sont dans cette situation de manque et qui remplissent de même qu'au niveau des troubles des conduites alimentaires, pareil.
Oui. Bonsoir, messieurs, dames, on en savourait. Est-ce que les collectionneurs peuvent être codifiés ?
Peuvent être ?
Codifiés dans vos troubles du comportement.
Est-ce qu'ils peuvent être ?
Meurs de timbre.
À codifier. Écoutez, le problème, c'est que...
Ça dépend pas de la maison, non ?
Il y a collection et collection. D'accord ? Quand on est enfant, on est assez obsessionnel. On est assez obsessionnel. On a tous fait des collections ici. Enfin, les garçons, tout du moins. Hein ? Les garçons... Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? Moi, je me souviens, il y avait la collection des porte-clés. Bon... Porte-clés, c'était dans les années 60, ça, hein, à peu près. Bon, donc les Scooby-Doo, il y a les boîtes d'allumettes, les cendriers, c'est un petit peu plus tardif. Bon, donc je dirais qu'il n'y a rien de caractéristique. Le problème de la collection, c'est que très souvent, il y a la collection qui est en rapport avec un certain plaisir. Et puis et la collection est freinée où vous n'êtes plus capable de contrôler le phénomène. Et là, c'est vrai qu'il y a des obsessionnels qui sont collectionneurs. Et c'est vrai que la première question qu'on pose, c'est est-ce que vous faites des collections ? Alors, ça dépend du degré. Moi, je me souviens d'un de mes patients qui était collectionneur entasseur. Un collectionneur entasseur. Alors, le collectionneur entasseur était assez particulier parce que il avait besoin d'entasser. Bon, il avait besoin d'entasser, donc c'était la récupération. Mais il collectionnait en plus, et donc il entassait des objets qu'il collectionnait. Mais le problème, c'est que c'était pas n'importe quoi, c'était des tondeuses à gazon. Alors, vous imaginez la place qu'il faut. Encore une ou deux, ça va, mais il devait en avoir une quinzaine qui récupérait, et donc c'était plus fort que lui, il fallait qu'il récupère. Donc, il y a toutes sortes de c'est sûr que les collectionneurs de timbres, c'est petit, bon, c'est petit. Il n'y a pas... Mais vous avez des collectionneurs, il y a des collectionneurs de voitures qui deviennent fous, et entre guillemets, hein, je plaisante. Mais, alors, c'est... Bon, mais il y a collection et collection, parce qu'il y a des collectionneurs de tableaux, mais aussi dans le but de placer de l'argent. Donc c'est très difficile, parce qu'il y a le collectionneur, il y a l'amateur, hein, il y a celui qui apprécie, mais il y a celui qui ne peut pas s'empêcher de collectionner. Et là on peut ça peut rentrer dans le cadre d'un comportement obsessionnel. Mais tous les collectionneurs, et heureusement, ne sont pas obsessionnels. Vous avez des amateurs d'art, collectionneurs qui ne sont pas obsessionnels et qui collectionnent pour la beauté. Bon. De temps en temps, il faut savoir quand même faire un petit peu le vide et puis nettoyer, mais bon, ça, c'est des questions personnelles.
Un sculpteur comme Armand, il a sublimé ça.
Non, je peux pas dire, je ne connais pas personnellement, mais...
Il y en a combien, je
dirais ? C'est Non, je pense qu'il y a des collections tout à fait originales. Mais je vais vous raconter une toute petite histoire parce que ça n'a rien à voir avec les obsessions et les collections, et pourtant ça a à voir un tout petit peu, mais ça n'a rien à voir avec les troubles maniaco-dépressifs, mais ça a à voir quand même un peu avec les personnalités pathologiques, bien qu'on soit plus dans le cadre des perversions. Je sens la salle qui s'émoustille. J'étais jeune interne à l'époque, c'était il y a très très longtemps, et c'était à l'infirmerie psychiatrique, tout à côté d'ici, juste en face, là, où on m'avait conduit un ingénieur qui avait été arrêté parce qu'il avait blessé avec un cutter, avec une lame de rasoir, les cuisses d'une femme.
Bon.
Au niveau de la cuisse. Bon. Là, vous allez me dire, jusqu'à maintenant, on n'est pas dans les histoires de collection. Qu'est-ce qu'il y a de pathologique là-dedans? Un petit peu pathologique, mais quand même, dit un agresseur. Bon. Et j'examine le monsieur qui ne parlait pas un mot de français, et moi ne parlant pas un mot d'allemand, donc c'était très facile. Et donc j'ai eu son ami qui est venu me voir et qui elle est française et qui m'a raconté son histoire. Et alors son histoire est extraordinaire et elle a fait une analyse fabuleuse de ce collectionneur de parapluies. Alors vous allez me dire comment on peut passer de la cuisse d'une femme à un parapluie ou réciproquement. Eh bien je vais vous dire pourquoi il était collectionneur de parapluies en sachant qu'il avait chez lui une cinquantaine de parapluies. Donc jusqu'à maintenant, vous ne voyez pas quel peut être le lien, mais j'essaye de faire qu'il y ait un petit peu de suspense. Ce monsieur ingénieur est issu d'un milieu très favorisé, et son père était l'un un grand inventeur qui avait inventé le nylon. Le nylon. Et le nylon, donc, il avait j'ai pas des connaissances dans ce domaine, mais bon.
C'est un Américain pour moi.
Non, mais un autre type de nylon, disons. Et donc...
C'était le polyester, alors.
Je ne sais pas, mais il n'empêche que ce grand inventeur ingénieur habillait tout le monde dans la famille avec du nylon. Bon. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas si c'est au niveau du fétichisme, mais il avait des liens, bien sûr, avec sa mère, mais toujours à travers le nylon. Et il est arrivé... au moment de l'adolescence, où il s'est aperçu que le fait de toucher du nylon provoquait une érection et des sensations très agréables et très fortes. Et donc, il a commencé à se masturber, excusez-moi pour les jeunes qui sont là, à se masturber avec les rideaux de l'appartement, avec la robe de les robes de sa mère, bien sûr, et puis il s'est marié. Il s'est marié, il a parlé de ses fantasmes à sa femme n'a pas du tout supporté, d'autant plus que lui, pour faire l'amour, était obligé de s'habiller avec les anciennes robes de sa mère en nylon. Donc on était quand même dans des trucs assez compliqués. Et jusqu'au moment où sa femme l'a quitté. Jusqu'au moment où sa femme l'a quitté, et il est tombé sur une femme beaucoup plus âgée que lui, mais qui tolérait cette déviance. Et il s'est aperçu qu'avec les parapluies, il se passait exactement la même chose. Donc il a commencé à acheter les parapluies, et donc à chaque fois, il changeait de parapluie. Et il les conservait, les parapluies. Donc chez lui, il y avait 40, 50 parapluies, jusqu'au moment où son père est venu le voir, lui rendre visite, et donc là, c'était la panique à bord, parce qu'il y avait 50 parapluies qui étaient maculés, et il ne savait pas où ranger ses parapluies, et il ne pouvait pas dire à son père ce qui se passait. Et après, donc, ça a été les bas. Et donc, il y avait la même sensation avec les bas, et donc, il était à la terrasse d'un café, et il a entendu donc le crissement des bas en nylon. Et là, il y a eu un comportement impulsif. Il fallait qu'il touche, il fallait qu'il arrache, et il s'est retrouvé arrêté. Voilà. Donc tout ça pour petite histoire de collection de parapluies. Mais tout ça pour dire que, bien sûr, que celui qui collectionne des timbres, on n'est pas dans la même problématique. C'est une évidence. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais bon. Bon, on dévie beaucoup là.
Oui.
C'est surtout Denis qui nous fait dévier.
C'est tellement sérieux ce que Benoît a raconté. On peut passer à la question suivante, docteur ?
Alors, moi j'ai une question à poser, je vais faire peut-être un petit peu de science-fiction. Vous parliez tout à l'heure de génétique pour définir les troubles de la personnalité. Vous disiez qu'il semblerait que c'est plus évident pour les troubles de la personnalité que pour d'autres symptômes, par exemple la bipolarité. Est-ce que ça veut dire qu'on a un peu mieux déterminé les gènes d'où ça pouvait provenir? Mais si ça n'est pas le cas, est-ce que ça peut être fait? Si c'est fait, est-ce qu'on va pouvoir travailler sur ces gènes? Est-ce que ça veut dire qu'à partir de là, on pourra définir à l'avance la personnalité de quelqu'un en fonction de tripatouillage de gènes?
Non, parce qu'on ne pourra jamais contrôler tous les événements extérieurs qui font qu'on est ce qu'on est et qui font qu'on a notre propre individualité. C'est-à-dire qu'on est unique. On est unique et je dirais que on part à la base avec un patrimoine, il est certain. On peut très bien imaginer des clonages et puis bon. Mais je dirais que la personnalité, elle se construit au fil des ans. Elle se construit en fonction des événements qu'on est amené à vivre. Elle se construit aussi en fonction des relations qu'on peut établir avec les personnes. Elle se construit en fonction des situations d'agression, de manque. Et donc tous ces éléments font qu'on sera tous différents. Donc on peut pas, même si on pouvait dans une film de science-fiction comme ça établir à l'avance quelle allait être la personnalité du sujet en fonction de ses caractéristiques génétiques, parce que à partir du génome humain, on peut très bien se dire tiens, il va être comme ça. Mais je dirais que c'est la vie qui nous façonne, c'est les événements de vie qui nous façonnent, c'est la qualité de la relation qu'on peut avoir avec les autres, c'est la possibilité de s'identifier ou non à des images de référence, parce que dans la personnalité, bien évidemment, je n'en ai pas parlé parce que c'est un sujet qui est très vaste, il y a aussi la notion de modèle, hein, c'est-à-dire qu'on est dans la copie de l'autre, hein, et on va se construire aussi en fonction des images qu'on a autour de soi et de son père, de sa mère, des amis, du groupe, voilà.
Et pas forcément l'opposition, docteur, il n'y a pas des
gens
qui se mettent contre,
au
contraire, qui font le contraire.
Bien sûr qu'il y a des réactions d'opposition, bien sûr. Hein, mais déjà, la personnalité, elle est là. Pour pouvoir réagir de la sorte, on est déjà dans quelque chose qui s'est déjà construit à la base.
Marie-France Sirio-Goyen, dans son livre sur le harcèlement moral, avait dit que les personnalités narcissiques étaient des harceleurs moraux.
J'ai pas été tendre tout à l'heure par rapport aux narcissiques, hein, vous m'excuserez s'il y a des narcissiques dans la salle, mais c'est vrai que ce sont des personnes qui n'ont pas d'empathie pour l'autre, c'est-à-dire que l'autre n'existe pas. Et donc, dans une relation, qu'elle soit au niveau du couple, au niveau de la société, dans une structure professionnelle, il va être en plus manipulateur. Donc, on n'a pas parlé de cette autre dimension aussi qui rejoint les perversions, mais c'est vrai que l'autre devient un objet. L'autre devient un objet, il n'a pas de il n'a pas d'âme, il n'a pas, c'est quelqu'un qui va être utilisé. Et cette absence d'empathie que peut avoir le narcissique, ben, le conduit à traiter l'autre comme s'il n'était rien. Et donc, bien sûr que là, on se retrouve dans cette situation de harcèlement, harcèlement moral, harcèlement sexuel. C'est vrai que la personnalité narcissique est une personnalité, un prototype, je dirais, pour ce type de relation.
J'ai trois petites questions avec trois petites réponses. Un, est-ce que Thierry-Angel Gilles, d'après vous, est malade d'une des maladies que vous venez de citer? Parce qu'il a écrit La fille au Babylon. Non, ça c'est une plaisanterie.
J'ai pas entendu.
Non, plus sérieusement. C'est Julien Clerc qui chante, mais c'est la Belgique qui l'a écrit. Sérieusement, j'ai lu quelque part que la sérotonine, le problème de la capture de sérotonine, mais enfin pour moi, mon image, c'est un liquide qui est du cerveau et qui descend dans le corps et qui avait des relations, notamment avec les intestins. C'est vrai ou pas?
Alors, faut pas. Oui, c'est vrai, mais ça n'a pas. Il y a de la sérotonine dans les intestins.
Oui.
C'est indiscutable.
Oui.
Mais la sérotonine, vous en avez partout.
Oui.
D'accord. Mais vous avez des tumeurs qui peuvent sécréter de la sérotonine au niveau des intestins. D'accord. La sérotonine qui est dans le cerveau, elle reste dans le cerveau. C'est vrai qu'on en retrouve dans le liquide céphalorachidien. C'est vrai qu'il y a des phénomènes de diffusion. C'est vrai que vous pouvez faire des dosages dans le sang et vous aurez de la sérotonine. Mais le fonctionnement sérotoninergique au niveau cérébral, ce qui est intéressant aujourd'hui, et ça je l'avais dit dans les premières réunions, c'est pas tellement la quantité de sérotonine, c'est surtout l'activité des récepteurs sur lesquels viennent se fixer la sérotonine, et c'est cette activité des récepteurs qui détermine tel ou tel comportement. Alors il est certain que lorsqu'il y a un défaut de sérotonine dans le cerveau, c'est une vision très très schématique, lorsqu'il y a un défaut de sérotonine dans le cerveau, eh bien l'activité de ces récepteurs sera modifiée. Et à ce moment-là, on pourra se retrouver confronté à tel ou tel comportement. D'accord ? Et les médicaments qui agissent aujourd'hui sur les systèmes sérotoninergiques vont bloquer l'activité de récepteurs, vont aller se fixer sur des récepteurs, et vont faire que on va retrouver un équilibre. Donc mais en ce qui concerne l'intestin, j'ai oublié les études de médecine, mais je me souviens que dans certaines pathologies, donc il y a certaines pathologies tumorales sérotoninergiques où on a ces manifestations, et de même que lorsqu'il y a une hyperactivité sérotoninergique, on peut avoir des diarrhées, on peut avoir de ce type de manifestations.
Donc, ça va peut-être faire les gens, mais enfin, c'est une question idiote. Parce que moi, je pensais que les gens qui n'avaient pas fait caca le matin, ils étaient de mauvaise humeur toute la journée, mais ça n'a pas de rapport. Je ne sais pas, justement. On peut pas aller jusque là, quand même.
Non, mais c'est bien.
Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport à la relation et la confusion qui a été faite, qui n'est plus faite, entre psychopathe et bipolaire. Et dans quelle mesure la personne bipolaire peut avoir une attitude semblable à celle d'un psychopathe en crise? Dans quelle mesure ça se rejoint? Et surtout, au niveau du passage à l'acte, est-ce que le bipolaire est capable de passer à l'acte comme le psychopathe?
Alors, le bipolaire passe à l'acte, faut-il définir quel type de bipolaire passe à l'acte. Moi, je connais des bipolaires qui sont tellement névrosés qu'ils ne passeront jamais à l'acte. Bon. Je dirais que cette notion, la notion de structure sous-jacente, elle est fondamentale, parce que c'est ça qui fait toute la maladie. C'est-à-dire que vous avez des bipolaires qui ont une structure névrotique qui vont être quand même relativement limitées. Vous en avez d'autres qui seront plus, qui aura plus des éléments d'instabilité et puis avec une moins bonne structuration et qui seront capables d'excès. Alors, au niveau symptomatique, bien sûr que vu de loin, il y a des similitudes, parce que le bipolaire peut être confronté à la loi du fait de ses excès, du fait de ses actes de désinhibition. La différence fondamentale qui existe entre le bipolaire et le psychopathe, c'est que le psychopathe, c'est constitutionnel, c'est permanent. C'est-à-dire que la personnalité antisociale va être en permanence dans les passages à l'acte, va être en permanence dans l'instabilité, dans l'impulsivité, dans les réactions irritables. Le bipolaire pourrait être irritable, pourrait être agressif, pourrait être instable, pourrait être impulsif, pourrait être dans le passage à l'acte, mais à certains moments de sa vie. À d'autres moments, il sera complètement linéaire, et à d'autres moments, il sera au contraire dans le blocage. Donc je dirais que c'est cette notion d'alternance qui va nous... Parce que faire un diagnostic en peu de temps, dans le cadre d'une expertise, par exemple, c'est pas évident, mais c'est en reprenant l'histoire du sujet qu'on va faire le diagnostic. Et le psychopathe, il est né quasiment psychopathe. C'est-à-dire que les premières manifestations du psychopathe surviennent dès l'adolescence, et on voit que leur biographie, elle est émaillée de conduites antisociales. Mais c'est pour ça que je vous parlais du petit rebelle à l'école, déjà en classe de 7e, 6e, qui était la forte tête, qui volait, qui traitait la maîtresse de tous les noms, qui était déjà dans le refus de l'autorité, qui était déjà dans l'agressivité des comportements violents.
Bonsoir, docteur. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les résultats d'un travail sur soi ou d'un travail thérapeutique sur les différents types de personnalités, en distinguant les psychotiques et les érotiques, peut-être?
Attends, j'ai pas très bien compris votre...
Oui, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les résultats que l'on peut obtenir en faisant un travail sur soi, un travail thérapeutique, un travail psychanalytique ou autre, sur ces différents types de personnalités? Est-ce qu'on peut changer ces types de personnalités? Est-ce qu'on peut guérir? Est-ce qu'on peut évoluer? Ou est-ce que tout est figé?
Non, mais bien sûr qu'on peut évoluer, et c'est là où il faut quand même être assez optimiste, c'est-à-dire que c'est plus difficile que de traiter. Vous êtes un jour déprimé, vous avez un trouble dépressif qui va être réactionnel, vous allez prendre un traitement, vous allez identifier quel est l'élément qui a été déclenchant, et puis cet événement dépressif va disparaître. Lorsque vous avez un trouble de la personnalité, ce qui est important, c'est de pouvoir identifier quelles sont les causes, ce qui est à l'origine du dysfonctionnement de la personnalité. Et c'est là où par exemple, les comportementalistes ont identifié un certain nombre de schémas et proposent des stratégies thérapeutiques par rapport à ces schémas qui sont en fait les causes du comportement. Mais en sachant aussi que on aura plus de facilité à traiter quelqu'un qui a une personnalité évitante, une personnalité histrionique, une personnalité dépendante, que quelqu'un qui a une personnalité borderline, où là, le dysfonctionnement à l'origine est beaucoup plus important et beaucoup plus majeur, parce que il y a eu véritablement cette notion de carence, de séparation, alors que par exemple un enfant qui va être anormalement timide, eh bien cet enfant il aura pu durant son enfance être repoussé, avoir des mauvais résultats scolaires, être rabroué par ses parents, s'être entendu dire « t'es vraiment nul », mais ça n'a pas la même valeur que lorsqu'on a été victime de sévices sexuels, lorsqu'on a été victime d'une séparation. Et c'est là où, par rapport à cela, donc il y a des prises en charge structurées, psychothérapiques, thérapies comportementales, voire analytiques, qui permettent, heureusement, d'améliorer et de stabiliser le sujet, en sachant qu'il y a bien sûr une meilleure réponse lorsque ces personnalités sont névrotiques que psychotiques.
Je prends la parole exceptionnellement. Autrefois, on parlait de psychose maniaco-dépressive. Aujourd'hui, vous parlez de troubles bipolaires. Est-ce que on est obligé d'avoir une psychose pour être troublé, ou non, on peut troubler différemment?
Je crois que la vision qu'on peut avoir aujourd'hui des troubles de l'humeur, elle est très différente de celle qu'on avait il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Il y a 30 ans, on avait tendance à distinguer ce qui était endogène de ce qui était exogène. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté des dépressions endogènes, et puis d'un autre côté, vous aviez des dépressions névrotico-réactionnelles, c'est-à-dire qui étaient liées à des événements particuliers sur des personnalités fragiles. Bon. Et les dépressions endogènes étaient le meilleur exemple, c'était la dépression qui survenait au cours du trouble maniaco-dépressif. Au cours de la psychose maniaco-dépressive. Et on parlait de psychose maniaco-dépressive parce qu'au cours des épisodes maniaques, le sujet pouvait être amené à délirer. Aujourd'hui, on a une autre vision. Alors, on a toujours, bien sûr, cette correspondance et ces troubles bipolaires qui correspondent aux psychoses maniaco-dépressives d'antan du fait de l'intensité de la symptomatologie. Mais si on utilise des critères beaucoup plus soft, on a une proportion très élevée dans la population générale de personnes qui présentent des fluctuations d'humeur. Puisque, je vous le rappelle, dans la population générale, il y a à peu près 1,5 à 2% de maniaco-dépressifs, je dirais, authentiques. Et puis, vous avez des formes atténuées. Formes atténuées, on arrive à 5% en intégrant les cyclothymies. Et puis, si on utilise des critères moyens, on arrive à 10%. Et puis, Angst, qui est un chercheur, enfin, un clinicien psychiatre suisse, lui est arrivé à quasiment à 20% de la population. Bon, ça fait beaucoup, 20%. Mais le terme de psychose n'est plus utilisé parce que maintenant, on se réfère plus à cette notion de trouble de l'humeur. Donc, on a des fluctuations qui sont plus ou moins intenses, avec des formes graves et des formes moins graves, des formes aiguës et des formes subaiguës. Et puis c'est surtout cette notion de structure sous-jacente. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des formes qui sont psychotiques, et ce sont les troubles schizoaffectifs, où là, il y a quelque chose qui est quand même du domaine de la psychose. Et puis vous avez des formes, des troubles maniaco-dépressifs qui peuvent survenir sur des personnalités névrosées. Et c'est sûr que le terme de psychose maniaco-dépressif n'est plus du tout adapté. Donc là, on se réfère essentiellement à cette notion de trouble. C'est un syndrome. Il y a un trouble auquel peut être associé d'autres troubles sur un type de structure. Et je dirais que c'est la structure qui fait, en fait, la gravité aussi de la maladie.
Oui, s'il vous plaît, je voudrais savoir si la sérotonine peut être évaluée par des analyses de laboratoire, parce qu'on remarque que des médecins, et notamment des généralistes, pas forcément des psychiatres, donnent du Deroxate ou du Prozac sans aucun examen préalable. Alors, y a-t-il possibilité d'évaluer la sérotonine ou les autres éléments, là, je ne me souviens plus le nom dont vous avez parlé, par des analyses de laboratoire ou...
Alors, oui. je vais essayer de me remémorer certains de mes vieux souvenirs. Il y a une vingtaine d'années, bon, il y a 40 ans, on fonctionnait de manière très très schématique et on pouvait être très fort en psychiatrie biologique parce que la psychiatrie biologique était complètement inexistante et à l'époque, il n'y avait que des substances. On ne parlait pas d'un récepteur, on parlait de substances. Bon. Donc c'était simple. Ensuite, dans les années 80, on s'est interrogé aux métabolites de ces substances. Donc par exemple, la sérotonine, c'était le 5-HIAA, 5-hydroxyadol-acétique. Donc ce métabolite, il pouvait se doser au niveau du liquide céphalo-rachidien, au niveau des urines, au niveau du sang. Et puis on avait un autre métabolite qui était celui de la noradrénaline, qui était le MHPG, le méthoxyhydroxyphénylglycol. On s'est aperçu qu'en fin de compte, lorsqu'on faisait des dosages périphériques, ça n'avait strictement aucune valeur, parce que ils étaient très sensibles à d'autres facteurs alimentaires, la lumière, le sommeil, l'activité motrice. Donc la seule solution, ce serait de faire des ponctions cérébrales pour voir quelle est votre quantité de sérotonine dans certaines zones du cerveau, avec quand même certains risques. Donc là, on oublie complètement. À l'état de recherche actuellement, vous avez des études qui sont faites avec les caméras à positon, c'est-à-dire que on injecte des produits radioactifs et on suit et on évalue la radioactivité de certaines zones au niveau du cerveau. Ça permet de marquer des zones sérotoninergiques et autres, mais c'est vraiment à l'état de recherche. En pratique, moi je sais que je suis parfois effrayé parce qu'il y a des médecins qui demandent comme ça un dosage des 5-HIA urinaires ou des... Ça n'a strictement aucune valeur, si ce n'est celle de vous désargenter, mais c'est tout. Ça n'a aucune valeur, vraiment aucune valeur, ça ne se fait plus. On le faisait systématiquement dans le service à un moment dans les années 80, en 81, 82. Ça ne se fait plus du tout. Parce que ça n'a aucune valeur. Encore une question.
Oui, vous avez parlé des troubles de la personnalité obsessionnelle, et on parle toujours des personnes qui ont l'obsession de l'ordre. Hein. Et je voulais savoir pourquoi on ne parlait jamais, non pas des borderline, mais des bordéliques. Hein.
Alors, ça, je peux vous en parler avec énormément de facilité. Très souvent, les bordéliques sont aussi obsessionnels. C'est-à-dire que, mais ils ont un ordre dans leur désordre, c'est-à-dire qu'ils sont bon. Mais alors, il y a plusieurs origines. Ça peut être obsessionnel parce qu'il y a pas mal d'obsessionnels qui sont véritablement bordéliques. Et puis, il y a ceux qui sont désorganisés. Des personnes qui sont désorganisées, qui vivent ils sont désordonnés partout, aussi bien dans leur chambre que dans leur tête. Et il y a des hommes, mais là, on est plus dans la psychose. Et puis, il y a les paresseux. Mais bon, le fait, par exemple, j'ai des obsessionnels désordonnés, ça, on en rencontre. Hein. Dernière question.
Oui, alors je suis désolée, j'ai pas suivi toutes vos premières interventions, vos premières conférences sur les maniaco-dépressifs ou les bipolaires, je sais plus. Donc, j'ai pas les infos. Je voulais savoir. Si ça pouvait être déclenché, je suis fille de maniaco-dépressive d'ailleurs, si ça peut intéresser la dame, pour savoir ce qu'il faut leur dire de temps en temps aux enfants de maniaco-dépressifs, mais est-ce que ça pouvait être déclenché par, notamment par, comment ça s'appelle, quand on endort les gens avant l'opération, une anesthésie générale, comme il pouvait y avoir, parce que effectivement, ma mère, deux fois, s'est réveillée dans un état, ils ont appelé maniaque, d'opération, d'anesthésie générale comme ça, et c'est depuis que ça s'est mis en place comme ça au fil des ans, en s'aggravant.
Oui, tout à fait. On a quelques cas dans la littérature qui ont été décrits, hein, d'états maniaques qui sont survenus à l'occasion d'anesthésie, des cas qui sont survenus à l'occasion de l'utilisation de certains médicaments. Le plus courant sont les corticoïdes, hein, qui peuvent provoquer de véritables états d'excitation et faire rentrer dans la maladie. Donc il y a un facteur précipitant, un facteur déclenchant. Il y a le problème des toxiques. Il y a énormément de causes. À savoir que vous avez des causes neurologiques. Moi, je me souviens d'une patiente qui avait été hospitalisée il y a 20 ans dans le service à la suite d'un traumatisme crânien et qui, avant, n'avait aucun antécédent personnel familial et qui faisait des épisodes dépressifs et maniaques de 28 jours. 28 jours. Et tous les 28 jours, elle virait. Et c'était, mais vraiment, ça faisait très organique, parce que cette personne qui était indemne d'antécédents, eh bien, elle a fait un premier épisode à la suite de son traumatisme, on était rentré dans la maladie. Tout ça pour dire que un choc, un traumatisme neurologique, enfin cérébral, certaines substances peuvent faire rentrer. Alors, la difficulté après, c'est d'enrayer le processus. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup aujourd'hui sur la trop facile utilisation des antidépresseurs, qui dévoilent certains troubles maniaco-dépressifs, à savoir que des personnes qui n'auraient jamais dû devenir maniaco-dépressifs ont été maniaco-dépressifs par une utilisation pas assez bien pesée, je dirais, des antidépresseurs qui ont boosté en quelque sorte la personne et qui l'ont fait passer de l'autre côté. Et après, on rentre dans un cycle infernal. Et c'est là où il faut tout remettre en place. Bien, je...
Petite.
Une question.
Bon, alors j'en dirai qu'une, j'en avais deux, comme ça j'en dirai qu'une. Oui.
C'était la finale. Hein.
J'étais étonnée, enfin, certainement à tort, vous avez raison, mais je m'attendais au fait que, tout en parlant de la maniaco-dépression et des psychopathes, vous n'abordiez pas au milieu ou quelque part ailleurs, le problème de la schizophrénie et le rapport, enfin, de ne pas passer à l'acte où l'on devient psychopathe.
Oui, parce que là on est vraiment hors sujet, c'est-à-dire que on est dans un autre domaine, hein, celui de la pathologie mentale. On l'avait subabordé, je crois, dans les problèmes de comorbidité. Vous n'étiez pas là, je crois, parce que je vous ai pas vu, mais. Vous avez été absente une fois.
Oui.
Mais bon, c'est un très vaste sujet, et c'est vrai qu'il y a des liens, mais ça, on en parlera une autre fois. Je vous remercie de votre attention.